Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse, des versets 11 à 18. Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18. Puis je vis une autre bête montée de la terre, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors on va aujourd'hui terminer notre étude du chapitre 13 et de la section des versets 11 à 18. On avait fait la première partie la semaine dernière. Nous allons faire cette semaine la deuxième et dernière partie et ça va terminer le chapitre 13. Alors on rappelle le titre, la deuxième bête qui sort de la terre, le faux prophète qui s'allie à la première bête pour tenter de vaincre l'Église. On avait vu que le passage pouvait se diviser en trois parties. Le faux prophète, sa manifestation, les versets 11 à 14a. Le faux prophète, sa manipulation, versets 14b à 17. Et le faux prophète, sa malédiction, versets 18. Alors, ce qu'on va faire pour qu'on ait une vue d'ensemble cohérente, on va un peu regarder ce qu'on avait vu la semaine dernière rapidement. On va reviser un peu ce qu'on a vu, de manière à ce que la leçon soit complète dans nos esprits. Alors, on avait remarqué la semaine dernière que Satan avait échoué dans sa tentative d'éliminer l'Église institutionnelle. Donc, l'Église institutionnelle, c'est l'Église dans son ensemble. Donc, il avait cherché à la paralyser, à l'arrêter, et il avait cherché à le faire, surtout par la force et la persécution. Et maintenant, on avait remarqué qu'il avait changé de tactique, dorénavant, qu'il se concentrait maintenant sur la séduction et la tromperie des chrétiens individuels. Donc, c'est important de saisir ici qu'il y a une bascule entre les efforts de Satan envers l'Église institutionnelle et qui va basculer pour attaquer plutôt les chrétiens de façon individuelle. Je vais relire la note du commentateur William Hendrickson qui nous donne un excellent résumé de l'ensemble du chapitre 13 de l'Apocalypse. On revoit cela et ensuite on va reviser un petit peu ce qu'on avait vu jusqu'à date. Alors, voici ce que William Hendrickson nous dit sur le chapitre 13. Il dit, le chapitre 13 nous parle des agents ou des instruments dont se sert le dragon pour attaquer l'Église. Deux bêtes sont décrites. La première est un monstre horrible. La seconde a une apparence inoffensive, mais à cause de cela même, elle est plus dangereuse que la première. La première monte de la mer, la seconde de la terre. La première est la main de Satan, la seconde est son esprit. La première représente la force et la persécution de Satan, qui opère dans ce monde par l'intermédiaire des nations et de leur gouvernement. La seconde symbolise les fausses religions et philosophies qui ont cours dans ce monde. Les deux bêtes mènent la lutte contre l'Église tout au long de notre dispensation. Mais l'apôtre les dépeint dans des termes correspondant à la forme prise par ces bêtes à la fin du premier siècle. En Apocalypse, chapitre 14, verset 8, apparaît un troisième acteur, Babylone, la prostituée. Satan emploie donc au total trois alliés dans le combat qu'il mène ici-bas. La persécution, les religions et la séduction antichrétienne. Fin de la citation. Alors, le premier point qu'on avait regardé la semaine dernière, le faux prophète, sa manifestation, on va reviser rapidement en rappelant les principaux points qu'on avait observés. Donc, le pasteur Herman Oxema rappelait que, selon lui, la bête dans son ensemble ne représente pas une seule personne ou un seul individu, mais qu'à l'avenir, toutes les sciences et les philosophies et toutes les religions seront unies et l'humanité aura la même religion. Et cette nouvelle religion va embrasser toutes choses, ce sera une religion qui sera universelle et elle va fixer les règles de notre vie individuelle, de notre vie domestique, de la vie de la société en général et aussi de la vie des nations. Alors, ça va être un nouveau système de pensée et de religion avec un nouveau credo universel dans sa portée et en même temps avec un nouveau Dieu. Alors, c'est important de saisir que l'idée fondamentale qu'il exprime aussi, une des idées fondamentales, c'est que la bête, dans son ensemble, ne représente pas une seule personne ou un seul individu, mais plus un système, des philosophies et une religion. Donc, la première bête politique aura besoin d'être soutenue par la deuxième bête qui, elle, est plus de nature philosophique et religieuse. La deuxième bête, qui est le faux prophète, va servir la première bête qui est de nature politique. Les deux seront alliés et travailleront en collaboration comme elles l'ont fait tout au cours des siècles. Alors, la semaine dernière, on avait examiné aussi que les Écritures sont claires quant à l'identité de la deuxième bête, c'est le faux prophète. On avait vu que si on va lire Apocalypse chapitre 16, c'est-à-dire versets 13 à 14, elle est identifiée clairement comme la bouche du faux prophète. On avait également une autre mention dans Apocalypse 19, verset 20, où encore une fois, elle était identifiée comme le faux prophète, et une troisième fois dans Apocalypse 20, verset 10, où on parle des trois, et il nous parle ici du faux prophète, alors qui serait tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Alors le verset 11 nous parlait de son apparition, parce que le verset 11 se lisait comme suit, « Puis je vis une autre bête montée de la terre, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. » Alors le Seigneur Jésus, lors de sa première venue sur la terre, nous avait averti de ces choses-là, en nous disant qu'il y aurait des faux prophètes. Il nous avait averti de prendre garde à nous-mêmes. Il nous avait averti qu'il y aurait des faux prophètes, des faux apôtres. Et il nous avait averti aussi, Paul nous avait averti dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 12, que l'apparition de l'impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et des faux miracles. Alors, et avec les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, le verset 11 et 12 nous disait, c'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Dans le verset 12, on avait vraiment son rôle de la deuxième bête, et ça nous disait qu'elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Donc on voit son rôle, ça va être surtout d'amener les habitants de la terre à adorer la première bête. Alors, dans les versets 13 et 14, excusez-moi, 13 et 14a, on avait aussi ses actions. Ça nous disait qu'elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Alors, on avait vu la semaine dernière que comme il s'agit du malin, il est possible que certains signes qu'elle va opérer soient des supercheries qui pourraient être causées par la science moderne et la technologie moderne. Et on se rappelle également que les Écritures nous enseignent que, oui, il y a eu vraiment des choses qui ont l'air miraculeuses ou qui peuvent l'être jusqu'à un certain point par l'action des démons. On avait regardé dans Exode chapitre 7, versets 10 et 11, que les magiciens, lorsque Moïse et Aaron sont venus vers Pharaon, que les magiciens avaient pu aussi agir de façon imiter les miracles de Moïse, de façon que ça ressemblait vraiment à être aussi puissant. Mais on avait vu plus tard que sa capacité de magie était vraiment limitée. Et le Seigneur nous avait averti également que dans Matthieu 24, versets 24 et 25, qu'il y aurait de faux Christ et de faux prophètes qui s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus mêmes, s'il était possible. Le Seigneur dit, voilà, je vous l'ai prédit. Le deuxième point qu'on avait à regarder, c'est le faux prophète, sa manipulation. On avait vu que sa façon de manipuler la terre, ça avait été par la divinisation de l'État. Parce que ça dit, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Alors, on voit que au cours de l'histoire, il y a eu des gouvernements humains et leurs représentants qui ont vraiment outrepassé leurs droits et ils se sont appropriés de prérogatives et des devoirs qui, par nature, sont exclusivement réservés à Dieu seul. Pour regarder quelques exemples, il y avait eu les empereurs romains au 1er siècle qui avaient exigé que le peuple les adore comme Dieu. On a aussi l'exemple du culte de la race du Troisième Reich allemand. Et aussi, quelque chose qui est assez proche de nous autres aussi, c'est le communisme qui, lui aussi, comme système, a usurpé des droits divins. Alors, la première chose, donc le faux prophète, sa manipulation, ça a été en divinisant l'État. Deuxième chose, c'est la manipulation par le meurtre de ceux qui n'étaient pas des véritables adorateurs, qui étaient des non-adorateurs de l'État, dans le verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Alors, la semaine dernière, on avait rappelé que la bête ne tolérera pas que quelqu'un refuse de l'adorer. Le verdict va être radical. Ce sera la mort pour ceux qui vont s'opposer. L'État, bien entendu, va utiliser toutes les forces qui sont à son service pour s'assurer de l'exécution de sa volonté par tout le monde. Donc, ils vont utiliser les camps de concentration, la police, l'armée et toutes les forces qui sont à leur disposition. Et la troisième manipulation, c'est dans le verset 16 et 17. On va voir que la façon de manipuler le peuple, ça va être par la contrainte et aussi par l'oppression économique. L'oppression économique sur ce qui est vital pour assurer notre propre survie. Alors, ça dit dans le verset 16, « Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Alors, ce qu'on voit comme idée dans ces versets-là, c'est vraiment que ça va être universel, dans le sens que l'ensemble de la population, ça dit bien petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave. Autrement dit, il n'y a pas de personnes qui vont être exclues. Tout le monde va être obligé d'adorer, sinon... Et dans le verset 17, on a aussi la conséquence de ceux qui vont refuser. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête, ou le nom de son nom. Alors, on voit que ça va être une contrainte et une oppression qui va être économique, mais surtout en exerçant cette contrainte-là sur ce qui est vital pour maintenir la vie, notre propre vie sur la Terre. Alors, on parle d'une marque sur le front. On sait que le front, c'est le symbole de la pensée, symbole de la vie intellectuelle, de la philosophie d'un individu, de sa vision du monde, autrement dit. Tandis que la main droite, représente les actions, les activités et les occupations d'un individu. Alors, la marque indique qu'on appartient à la compagnie de ceux qui persécutent l'Église. Cet esprit antichrétien pourra se voir parce qu'une personne pense, dit, écrit ou fasse. Alors, bien entendu, je pense que l'idée fondamentale ici, c'est que ça va être parfaitement visible et observable que ceux qui adorent la bête, on va le voir par leur manière de penser, on va le voir par leurs paroles, on va le voir par leurs écrits et on va le voir aussi par leurs actions. Alors, c'est ça qui va démontrer qu'ils appartiennent vraiment à la bête. Alors, tout le comportement devra démontrer l'authenticité et la réalité de la soumission et de l'adhérence aux valeurs et aux pratiques prônées par l'État. Alors ici, ça nous dit qu'il va y avoir une marque. Alors, rappelons-nous que non seulement les bêtes et les esclaves recevaient de telles marques. Alors, il y avait les bêtes et les esclaves qui recevaient des marques à l'époque du premier siècle. Et bien entendu, elles signifiaient, elles étaient le signe de l'appartenance à un maître. Et bien entendu, l'esclave se devait de servir son maître, et, ou ça pouvait même aller jusqu'à lui rendre un culte. Alors, l'asservissement tyrannique sera absolu. L'homme sera réduit à l'esclavage le plus abject et le plus misérable. Alors, on arrive à la troisième idée du verset 18. Et bien entendu, ce verset-là a fait couler énormément d'encre et a été aussi interprété par beaucoup de manière extrêmement fantaisiste. Alors, on va regarder un peu plus en détail comment nous, on l'interprète. Alors, dans le verset 18, ça dit « C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Alors, la bête va sembler avoir un certain succès. Cependant, la Bible nous enseigne clairement que les deux bêtes, soit celles de nature politique ou soit celles de nature religieuse, connaîtront un autre échec lamentable lorsque l'on considère leur fin dernière et ultime. Par exemple, on va voir qu'il y a, ça contient vraiment une malédiction certaine pour tous les agents de Satan. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, on parle de l'enfer éternel. Alors ça dit, « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Donc, quand on considère leur fin dernière et ultime, c'est loin d'être, c'est un échec total, lamentable. Alors, c'est aussi une malédiction qui est évitable pour les enfants de Dieu en utilisant la sagesse que Dieu leur donne. Alors, les Saintes Écritures nous rassurent en nous rappelant que la sagesse est le fruit de la crainte et de la connaissance de Dieu. On peut lire, par exemple, dans le psaume 111, au verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. Sa louange demeure à toujours. » Important qu'il dit que c'est ici celui qui a de la sagesse, mais c'est important de se souvenir de qui, où est la source de la sagesse et par qui elle est donnée. Et de quelle façon on peut l'acquérir. Ça dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel est vraiment la clé. Et aussi, ceux qui pratiquent les commandements sont vraiment sages. Donc, la crainte de l'Éternel accompagnée d'une obéissance. C'est ça qui démontre si tu es vraiment sage. Alors, dans Jacques, au chapitre 1, et versets 5 à 8, ça nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Bien important ici de nous rappeler ce verset-là, ce groupe de versets-là, Jacques 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, je pense que tout chrétien, le moindrement réveillé, comme on pourrait dire, le moindrement conscient de son état, sait que peu importe la quantité de sagesse qu'on a actuellement dans nos vies, il y a place à amélioration. Et les Écritures nous disent d'une façon claire que si on croit qu'on en manque, moi, j'ai aucun problème à dire que j'en manque, et ça nous dit qu'il la demande à Dieu. Oui, je la demande à Dieu. Et ça nous dit qu'il nous donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais ça nous dit aussi qu'il faut demander avec foi. Quand on la demande, il faut déjà être persuadé que Dieu va exaucer notre prière et qu'il nous dit que le manque de foi, c'est un peu comparé à un homme qui est semblable au flot de la mer, qui est agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Puis là, ça nous dit que si un homme n'a pas la véritable foi de l'exaucement, il dit qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Très important de réaliser ici que le Seigneur nous dit que la sagesse, c'est ici la sagesse, dans le verset 18, mais la sagesse nous vient de Dieu. Et je pense que tout homme, même le chrétien le plus sanctifié, le plus proche du Seigneur, devrait avoir assez d'humilité pour demander au Seigneur de lui en donner encore davantage. Autre chose, à l'heure actuelle, là-dedans, c'est une malédiction qui est explicable par l'arrogance humaine. Alors, j'ai utilisé les notes du pasteur Paulin Bédard qui nous donne une bonne interprétation du chiffre 666. Et je le cite. L'explication la plus naturelle consiste à dire que le nombre qui caractérise la bête se trouve dans la sphère humaine. Cette interprétation est soutenue par le nombre lui-même, qui est 666. Le nombre 7, dans la Bible en général, et dans l'Apocalypse en particulier, est le nombre de Dieu, la plénitude et la perfection divine. Le nombre 6, quant à lui, est le nombre d'un développement qui ne mène pas à la plénitude et à la perfection de Dieu. C'est la caractéristique de la bête. Le développement de puissance et des ressources humaines au plus haut degré, mais sans Dieu, ne pourra jamais atteindre la hauteur de Dieu. La bête demeure au niveau humain. Le nombre n'est toutefois pas 6, mais 6, 6, 6, un 6 répété 3 fois. 3 est le nombre du Dieu trinitaire. La triple répétition du même nombre indique que la bête se présente comme Dieu. Cela confirme ce que nous avons appris de la vision et permet de calculer le nombre de la bête, c'est-à-dire de la reconnaître. J'ai annexé pour ceux qui ont les notes, qui ont les notes ou qui les ont téléchargées ou qui vont les télécharger. J'ai mis une annexe pour donner une idée de quelle façon, de quelle manière, dans le passé, le verset 18 de l'Apocalypse 13 a été interprété. Très important, j'ai pris le commentateur G.K. Beale, qui est dans son ouvrage très fouillé sur l'Apocalypse, vraiment un livre aux plus de 1000 pages, mentionne le fait suivant concernant l'interprétation du nombre 666 de ce passage. Voici ce qu'il dit. L'interprétation du nombre 666 de ce passage s'est développée historiquement autour de trois grandes approches. La première approche, depuis l'époque de l'Empire romain jusqu'à nos jours, il y a eu de nombreuses tentatives pour calculer par guématrie, le nombre de divers dirigeants mondiaux et les identifier comme la bête. Donc, si on regarde les approches qu'il y a eu dans l'interprétation du 666, c'est celle de donner guématrie, on va voir un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on veut dire par ça. La deuxième approche, c'est l'approche qu'on appelle chronologique et qui indique la durée du règne de la bête, que ce soit l'État païen, que ce soit l'islam, que ce soit la papauté ou une autre identité. Et aussi, troisième approche, le nombre est pris comme symbolique pour l'Antichrist, pour le pouvoir antichrétien, ou les deux. Donc, pour donner une idée de quelle façon ça a été interprété, ça a donné naissance à toutes sortes de fantaisies, des interprétations pas très sérieuses. Alors, l'approche par guématrie, c'est l'approche de donner une valeur numérique à des alphabets. Et au cours de l'histoire de l'interprétation de l'Apocalypse, il y a eu l'utilisation de trois alphabets principaux, l'alphabet hébreu, l'alphabet grec et l'alphabet latin. Par exemple, si vous prenez l'alphabet hébreu qui contient 22 lettres, Aleph aurait un chiffre équivalent de 1, Bet 2, Gimel 3, et ainsi de suite jusqu'à et ça va jusqu'à 10. Ensuite, à partir de 10, ça monte 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des noms et ils regardent le nom d'après la façon dont ils sont écrits en hébreu. Et pour chaque lettre, ils vont accorder la valeur numérique correspondante. Et ils vont additionner. Et si ça donne 666, ben, ils pensent que ça les autorise à dire que tel nom veut dire, alors j'ai pris un exemple. Là, si on faudrait qu'on rentre là-dedans dans les détails et regarder tout ce qui a été écrit ou dit sur cette méthode d'interprétation-là, on en aurait pour des semaines et des semaines et des mois même. Alors, j'ai pris juste un exemple pour qu'on puisse comprendre un peu qu'est-ce qu'on veut dire par géométrie. Alors, ici, on a l'exemple de Néron, l'empereur Néron, qui, la forme, autrement dit, Néron, si on l'écrit en hébreu, les lettres seraient les suivantes. Nun, Resh, Vav, Nun, Kof, Samek et Resh. Et si on regarde les valeurs numériques, et qu'on additionne la valeur numérique des lettres qui sont d'abord en grec mais translittérées en hébreu, ça donnerait 666. Alors, j'ai écrit sur le feuillet d'explication, sur l'annexe, le verdict, selon Beal, il dit que selon les spécialistes, cette interprétation-là présente plusieurs problèmes, et je n'ai pas voulu s'y rentrer dans la description des genres de problèmes, parce que c'est vraiment technique, et je pense pas que ça aurait été utile. Ensuite, si on dit qu'on le fait avec l'alphabet hébreu, on le fait également avec l'alphabet grec. Alors, dans l'alphabet grec, on a alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, etc. Puis, pour chacune des lettres, il y a une valeur numérique qui est attribuée. Alors, on fait encore exactement le même principe qu'avec l'alphabet hébreu. Vu qu'il y a des valeurs numériques qui sont assignées à chaque lettre de l'alphabet, on prend un nom, par exemple César, qui est écrit en grec, et ça donne l'utilisation des lettres suivantes, kappa, sigma, tau, gamma, kappa, nu, gamma et omicron. Et ça donne 666 également. Alors, encore une fois, le verdict, selon les spécialistes, ce procédé-là présente beaucoup de problèmes et c'est plus ou moins sérieux. Certains ont peut-être déjà vu aussi l'alphabet latin, donc l'alphabet romain. Alors, ceux qui connaissent un peu, qui se souviennent qu'ils ont appris à l'école, on nous faisait apprendre ce qu'on appelait les chiffres romains. Alors, il y avait des lettres qui étaient utilisées. Le I égale 1, le V égale 5, le X égale 10, le L égale 50, le C égale 100, le D égale 500 et le M égale 1000. Alors, il y en avait qui avaient utilisé le titre officiel du pape en latin, qui, je pense qu'il y en a qui affirment que c'est écrit sur la tiare du pape, Vicarius Filii Dei. Alors, Vicarius, si on prend, on juste donner un exemple, vous l'avez sur les feuilles, là, V égale 5, I égale 1, C égale 100, et si vous continuez de cette façon-là, avec le titre au complet, Vicarius va arriver au chiffre 112, Filii va arriver au chiffre 53, et Dei va arriver avec le chiffre 501. Et si on additionne les trois, ça fait 666. Donc, ça a été souvent utilisé dans certains livres de l'Apocalypse pour expliquer le verset 18 du chapitre 13. Alors, voici ce qu'il dit, lui, monsieur Beal. J.K. Beal. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris son affirmation qu'il donne dans son livre, à la page 720-721, et bien entendu, il est en anglais. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai mis dans Google Traduction et j'ai corrigé ce qui était à corriger pour que ça soit du français lisible. Alors, je vais juste vous donner son appréciation, lui, de ce qu'il appelle l'interprétation du nombre 666 par la méthode de gématrie, soit hébreu, soit grec, soit romain. Alors, voici ce qu'il dit. Toutes les tentatives d'identification avec le calcul littéral du nom de certains individus rencontrent des difficultés en raison de la manière métaphorique dont la langue et les nombres sont utilisés dans l'Apocalypse. Aucune des nombreuses solutions proposées utilisant la géométrie ou la guématrie n'est finalement satisfaisante car il y a tellement de noms anciens et modernes qui viennent à 666, il y a tellement de propositions parce qu'il est facile de transformer un nom en nombre, mais difficile de déduire le bon nom d'un nombre. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que si on étudie ces méthodes-là, il y a tellement de solutions, il y a tellement de noms qui vont arriver avec la solution 666 que ça ne tient pas debout. Alors, c'est pour ça qu'il dit que lui, il rejette cette méthode-là. Il dit, par conséquent, toute approche interprétative qui ne tente qu'un calcul littéral du nombre 666 dans une tentative d'identifier un seul individu historique doit être rejetée. Il dit ça à la page 726. Alors, c'est intéressant d'aller voir ce que ces personnes-là ont étudié l'Apocalypse vraiment en profondeur, en détail. Ils sont allés voir une multitude d'autres commentateurs qui ont écrit sur le même sujet avant eux. Et ils nous font profiter de leur savoir, de leurs observations. Et je pense qu'il a raison, qu'on ne doit pas chercher à identifier le nom de l'Antichrist comme individu, parce qu'on a parlé tantôt, c'est plutôt comme un système. Quoique le système et l'individu ne se contredisent pas l'un l'autre, là. Alors, la même chose pour William Hendrickson, dans son commentaire, lui aussi, dans son commentaire Apocalypse plus que vainqueur. Voici ce qu'il dit, lui aussi, sur la question d'essayer d'interpréter le nombre d'un nom d'un individu. Alors, il dit, les tentatives qui ont été faites d'interpréter ce nombre en additionnant les valeurs numériques des lettres composant le nom de Néron, Platon, etc., ne mènent à rien, parce qu'elles mènent à n'importe quoi. Alors, c'est intéressant de noter que plusieurs spécialistes des Écritures voient ces choses-là comme étant non sérieuses et comme étant contradictoires et comme disant tout et rien en même temps. Alors, on en arrive à l'application, à des applications qu'on peut tirer de notre deuxième partie du chapitre 13. La première application, c'est le discernement spirituel est nécessaire, sa nécessité. Nous avons besoin de discernement pour pouvoir détecter le caractère pervers et diabolique du faux prophète et son œuvre mensongère et séductrice. Implorons le Seigneur de nous donner un discernement à toute épreuve pour vaincre les ruses et les tromperies de Satan dans le domaine de la doctrine, des fausses religions, des faux enseignants et des fausses philosophies. Qu'il nous donne aussi la force de rejeter immédiatement et résolument tout ce qui est faux théologiquement. Je pense que ça nous amène à réfléchir sur la place que la Bible a dans nos vies et la place qu'on donne aussi à son étude. On peut difficilement avoir une compréhension de la Bible qui est éclairante quand on étudie un livre ou un sujet dans les Écritures, à moins qu'on lui consacre un temps. Alors, c'est de là l'importance pour chacun de nous de se rendre compte que les Écritures sont là pour nous éclairer et qu'elles nécessitent d'être étudiées. Bien sûr, elles se doivent d'être lues, se doivent d'être méditées, elles se doivent d'être mémorisées et elles se doivent d'être étudiées également. Alors, bien entendu, ces choses-là n'arrivent pas seules et on se doit de demander à Dieu de nous donner, de nous donner le vouloir et le faire pour arriver à aimer les Écritures et leur accorder plus de temps dans nos vies de tous les jours pour les lire, les écouter, les étudier, les mémoriser et les méditer. Deuxième application, c'est le courage dans l'épreuve. C'est une grâce de Dieu. Nous vivons à une époque difficile. Les attaques de Satan sont nombreuses et sournoises. Nous devons demander des grâces au Seigneur et aussi chercher à demeurer proche du Seigneur en utilisant abondamment tous les moyens de grâce qu'il nous a donnés pour demeurer fidèles avant sa deuxième venue ou avant qu'on décède. On lit par exemple dans Hébreux chapitre 4, verset 16, « Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. » Alors, ça nous dit qu'il faut vraiment pas se gêner pour aller au trône de la grâce. On est des enfants de Dieu, puis le Seigneur lui-même nous dit d'y aller avec confiance. Et il nous dit, afin, donc le but, c'est d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et de trouver du secours dans les temps convenables. Je pense qu'on vit à une époque où vraiment on a besoin de la grâce de Dieu, sa miséricorde, et il ne faut certainement pas négliger d'y aller souvent et de lui demander tout ce qu'on a besoin pour être capable de traverser la crise avec fidélité et de demeurer dans ses voies et dans son chemin étroit et resserré. Troisième application, c'est qu'on se doit de se rappeler continuellement que la victoire finale est assurée. Si on voit, par exemple, dans Apocalypse, au chapitre 15, les versets 2 et 3, on lit « Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et sa marque, et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu, et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, ô Roi des Saints. » Alors que notre grand, glorieux et merveilleux Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.